Vous écoutez, on lit pour vous.
Ces arbitres qui n'entendent pas à rire. Un texte d'Éric Martel paru le 1er septembre 2025 dans la presse. Imaginez arbitrer au baseball, au softball, au hockey et au football. Maîtriser 4 sports constitue déjà un exploit. Maintenant, ajoutez un degré de difficulté. Le faire en tant que personne sourde. C'est le défi que relève Daniel Lafantaisie depuis une trentaine d'années. On était curieux de voir Daniel Lafantaisie en action. On l'observe donc étroitement derrière le marbre, à son poste lors des championnats de l'Est du Canada féminin des moins de 17 ans de softball. Constat, à l'exception de ses appels, qui crient peut-être un peu moins fort que d'autres officiels, sa condition n'influence en aucun cas le déroulement du match. Peu importe le sport, pour exceller, Daniel doit demeurer attentif, nous expliquera-t-il. Son sens de l'observation, c'est tout ce qui lui permet de garder le fil du match. Il lui arrive, par exemple, de manquer des fausses balles. Au hockey, si la rondelle frappe le poteau, je l'entends. Détail celui qui est devenu sourd après avoir été atteint d'une méningite à la naissance. C'est plus compliqué si elle sort de la glace en frappant la baie vitrée ou en déviant sur un bâton. Il faut que je la voie, parce que je n'entends pas la réaction des joueurs. Si un joueur a des questions, il le dirige vers l'autre officiel. Sinon, Daniel lit sur les lèvres, ce qui lui permet de communiquer facilement avec ses collègues. Ça fait une trentaine d'années que j'arbitre, et des malentendus, il n'y en a presque jamais eu. Ça n'arrive que lorsque mon collègue a une trop grosse moustache ou une barbe, ricane l'arbitre amateur. Ma surdité ne m'affecte pas. Si je ne suis pas devenu arbitre professionnel, c'est à cause de ça, glousse-t-il, en pointant son ventre rebondi. On bombardera Daniel de questions sur sa pratique pour connaître les défis d'un arbitre malentendant. Jusqu'au moment où l'on comprend. Le réel enjeu, ce n'est pas les oreilles des arbitres. Il se trouve plutôt dans les yeux des athlètes et des parents. Préjugés. Pendant que Daniel arbitre, notre photographe Charles-William Pelletier concentre son objectif sur lui. Curieux, le père d'une joueuse le questionne. Bon joueur, Charles-William lui explique les détails de notre reportage sur les arbitres malentendants. Dès lors, le parent en question informe l'entraîneur de l'équipe de la surdité de Daniel, et il passe ensuite le mot aux joueuses. Ce scénario se répète souvent. Les équipes sont surprises de voir que je suis une personne sourde. Ils pensent que je ne ferai pas le travail, regrette Daniel Lafantaisie. Et par conséquent, les joueurs l'insultent, la plupart du temps en raison de sa surdité. « J'aime ça », lance notre homme, avec un large sourire. « Je ne perds pas de temps avec eux, je les sors du match. De toute façon, c'est ça, le règlement. » Des gradins, les parents lui crient toutes sortes de bêtises, qu'il n'entend pas. Il le menace même, parfois. Ironiquement, on le traite souvent d'aveugle. Une fois, un père m'a dit qu'il me verrait dehors de l'aréna. Il était vraiment fâché, raconte-t-il. Daniel a pris la chose au sérieux. Il a composé le 911. Quand la police est arrivée, je lui ai expliqué la situation. Une heure après, à ma sortie de l'aréna, une auto de patrouille m'attendait. On m'a suivi une partie de la route pour s'assurer que j'étais en sécurité, enchaîne-t-il, lui-même surpris du dénouement de la situation. Daniel raconte ses attaques avec légèreté, dans le rire, mais il l'avoue. Parfois, elle perce sa carapace. « Je suis une personne sourde, alors que toi, tu as la chance d'être entendant. Pourquoi tu m'insulterais en plus? J'ai le droit d'être là autant que toi. » réplique-t-il à ses détracteurs. Discrimination. Au moins, Daniel peut compter sur le respect des gestionnaires des ligues dans lesquelles il officie. Un autre arbitre malentendant, Michel Morancy, ne jouit pas du même luxe. Résident de Québec, il peine à trouver du boulot. Les organisateurs ne m'invitent pas, et quand je leur propose mon aide, ils prétextent qu'ils n'ont pas besoin de moi, dénonce celui que tout le monde surnomme Mimo. Pourtant, Michel a obtenu plusieurs certifications comme arbitre à Montréal. Comme elles ne sont pas exigées à Québec, il part avec une longueur d'avance sur les autres, croit-il. Les joueurs pensent souvent que je ne connais pas les règlements, que je ne comprends rien au match. Non seulement je comprends tout, mais probablement mieux que d'autres arbitres. C'est frustrant, confie Mimo. Le baseball et le softball sont ses vies. Fils de Richard Morancy, ex-vice-président des Expos dans les années 1990, Mimo baigne dans le milieu depuis l'enfance. Il a partagé des moments avec Vladimir Guerrero, a même déjà lancé la balle avec son fils, aujourd'hui une vedette des Blue Jays de Toronto. C'est d'ailleurs son père qui l'a poussé à arbitrer. Lorsque Mimo était âgé de 13 ans, la famille reçoit un appel. Un match de niveau AA de joueurs de 21 ans va bientôt commencer. Il manque un officiel. Ma mère était nerveuse. Elle me trouvait trop jeune. Mon père a insisté pour que j'y aille. J'ai foncé, raconte Mimo, sourd à la naissance. Sur place, il s'installe au deuxième but. Une chicane éclate entre les deux entraîneurs. L'arbitre au marbre avait 18 ans. Il était stressé, au point de faire dans ses culottes. J'ai dû prendre les choses en main. J'ai sorti les deux entraîneurs du match, pouffe-t-il. Depuis, Mimo n'a jamais arrêté. Il est même devenu le premier malentendant à arbitrer au championnat canadien de balle rapide. C'est vraiment un excellent arbitre, complimente l'arbitre en chef adjoint Jean-Michel Laliberté. Même si M. Laliberté ne parle pas la langue des signes, il communique facilement avec Mimo, qui lit sur ses lèvres. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On s'est habitué. Ça reste un beau défi. Il faut que je prenne le temps d'articuler pour m'assurer qu'il puisse bien comprendre, note-t-il. Si certains organisateurs hésitent à l'embaucher, c'est parce qu'ils craignent d'être incapables de communiquer avec lui, croit-il. Ça peut faire peur au début, mais au final, je ne m'empêche pas de parler à Mimo ou à Daniel. Je leur explique les consignes comme à n'importe quel autre arbitre. Des personnes aussi formidables et enthousiastes que ça, c'est rare. Tous les passionnés comme Mimo et Daniel devraient bénéficier des mêmes chances que les autres. Ce n'est pas plus compliqué que ça, conclut Jean-Michel Laliberté. Après avoir prononcé ces mots, il se tourne. Mimo se rue vers lui pour lui donner un gros câlin. Voilà bien une autre preuve que l'amour du sport se propage encore plus facilement que de simples ondes dans les airs. Coup de main essentiel. Ce reportage a constitué un défi technique, puisque votre humble scribe ignore totalement la langue des signes. Sa réalisation aurait été impossible sans l'apport de l'interprète bénévole France Abel. Enfant de parents malentendants, France a appris cette langue avant le français. Daniel et Mimo sont ses connaissances. « Toute la communauté des sourds, on est comme une grande famille », résume-t-elle. D'ailleurs, Daniel et Mimo ont pu suivre leur récente certification grâce à l'aide de France. Elle a passé les journées de cours avec eux, traduisant chacun des enseignements pour leur permettre de progresser. C'était Ces arbitres qui n'entendent pas à rire, un texte d'Éric Martel paru le 1er septembre 2025 dans la presse.
Jeunesse J'écoute créera la première fondation nationale dédiée à la santé mentale des jeunes au Canada. Un texte de Globe Newswire paru le 4 septembre 2025 dans Le Soleil. Jeunesse J'écoute, JJE, a annoncé qu'il évoluerait au début de 2026 pour créer la première fondation nationale dédiée à la santé mentale des jeunes au Canada. Cette initiative donnera lieu à la création de deux entités, la Fondation JJE et l'entreprise opérationnelle JJE. Cette nouvelle gouvernance renforcera la capacité de JJE à servir les jeunes grâce à une plus grande flexibilité, à une efficacité opérationnelle accrue, ainsi qu'à une croissance et à une innovation à long terme. Citation. Cette prochaine étape passionnante dans notre évolution en tant que leader de la santé mentale des jeunes permettra à JJE de continuer à innover et à se développer pour répondre aux besoins émergents des jeunes au Canada, tout en préservant et en protégeant nos activités fondamentales. Fin de citation, a déclaré Tracy Sandler, présidente du conseil d'administration de JJE. Citation. Ce changement vise à donner un nouvel élan qui nous permettra de nous concentrer et de croître en tant qu'organisation. L'entreprise opérationnelle continuera d'offrir directement du soutien et des services aux jeunes, comme auparavant, tandis que la Fondation sera entièrement dédiée à la collecte de fonds et aux relations avec les donateurs et donatrices de JJE. Fin de citation. En créant deux entités distinctes mais interconnectées, la mise en place d'une fondation dédiée garantira que les contributions des donateurs et donatrices aient le plus grand impact possible. Parallèlement, en se concentrant sur le financement et le développement de ressources, JJE pourra investir dans davantage de services qui changent la vie des jeunes au Canada et en rejoindre encore plus. Ce modèle a été conçu pour éviter les redondances grâce au partage des ressources organisationnelles, ce qui permettra d'assurer une collaboration fluide entre les deux entités. Citation. Depuis 36 ans, et dès le tout premier appel en 1989, Jeunesse J'écoute est un chef de file en matière de santé mentale des jeunes. Fin de citation, a déclaré Susan Morris, présidente directrice générale intérimaire de JJE. Citation. Notre travail n'est jamais terminé. Nous innovons constamment et cherchons toujours à nous améliorer, car les jeunes ont besoin et méritent un espace pour libérer leurs émotions sur n'importe quel sujet, à tout moment. Chez JJE, nous savons que les jeunes au Canada traversent une crise parce que nous leur parlons chaque jour. Cette nouvelle structure nous aidera à suivre le rythme de l'augmentation des besoins en santé mentale des jeunes, afin que nous puissions continuer à en soutenir davantage de plus de façons. Fin de citation. Elle a ajouté, citation, « C'est la prochaine grande étape de notre parcours de croissance et d'innovation. Le passage à un modèle à deux entités nous permet de poursuivre l'élargissement rapide de nos programmes éprouvés et de mettre en place de nouveaux services innovants. En même temps, les donateurs et donatrices peuvent contribuer à l'avenir de JJE en rejoignant directement un plus grand nombre de jeunes et en leur fournissant des ressources en santé mentale tout en protégeant les services essentiels du quotidien. En restant fidèles à notre mission et à notre engagement, nous demeurons un leader de confiance occupant une position vraiment unique au Canada. » Fin de citation. Le passage à une structure à deux entités permettra à chacune d'entre elles de maintenir son propre conseil d'administration, doté de compétences spécialisées pour un impact maximal, ainsi qu'une présidence direction générale pour l'entreprise opérationnelle et pour la Fondation. Comme annoncé précédemment, à la suite de la nomination de Catherine « Cathy » Hay, l'ancienne présidente directrice générale au Sénat du Canada, depuis le 1 septembre 2025, Susan Morris poursuit son mandat de présidente directrice générale intérimaire jusqu'à la fin de l'année. Cathy Hay agit désormais en tant que conseillère stratégique auprès du conseil d'administration et de la PDG intérimaire. L'équipe de direction de JJE continue de soutenir le conseil d'administration dans la mise en œuvre de son plan de relève complet, qui inclut le recrutement de président, présidente, directeur, directrice générale pour l'entreprise opérationnelle et la Fondation, dans le but d'assurer un leadership permanent d'ici janvier 2026. Durant cette période de changement stimulant, JJE continuera de prospérer et d'être là pour les jeunes du Canada, car ces derniers ont besoin et méritent un espace pour libérer leurs émotions sur n'importe quel sujet, à tout moment. Citation supplémentaire. La direction et le conseil d'administration de JJE étudient cette structure à deux entités depuis plusieurs années, en s'inspirant d'autres exemples dans notre secteur, afin de s'assurer que les risques et les avantages soient minutieusement évalués. En tant qu'organisation, nous croyons qu'il s'agit de la prochaine étape logique pour soutenir la croissance de JJE. Nous sommes des pionniers et pionnières en matière de soutien à la santé mentale des jeunes depuis plus de 35 ans et la création d'une fondation JJE vient amplifier cet héritage. Fin de citation, Tracy Sandler, présidente du conseil d'administration de Jeunesse J'écoute. À propos de Jeunesse J'écoute, Jeunesse J'écoute, JJE, est la première et seule solution numérique innovante de santé mentale accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au Canada, ainsi qu'un leader mondial en innovation pour la santé mentale des jeunes. Depuis plus de 35 ans, JJE est un espace de confiance où toutes les émotions et préoccupations, grandes ou petites, peuvent être exprimées. L'organisme permet aux jeunes partout au pays de libérer leurs émotions grâce à un soutien gratuit, confidentiel et multilingue. Avec l'innovation au cœur de notre ADN, JJE évolue constamment en combinant technologie et empathie grâce à l'expertise de nos professionnels cliniques afin de mieux répondre aux besoins des jeunes. JJE a récemment lancé l'accélérateur JJE, accélérateur sans espace JJ'E, une initiative visant à développer des solutions évolutives pour des enjeux complexes de santé mentale, tout en amplifiant les voix des jeunes et en favorisant les partenariats à l'échelle mondiale. JJE s'appuie avec gratitude sur la générosité des donateurs-donatrices, bénévoles, partenaires communautaires, entreprises et gouvernements pour soutenir et développer ces programmes. Découvrez-en plus sur jeunessejécoute.ca. C'était Jeunesse J'écoute créera la première fondation nationale dédiée à la santé mentale des jeunes au Canada, un texte de Globe News Wire paru le 4 septembre 2025 dans Le Soleil.
Des regards accusateurs, le fardeau du handicap invisible, un texte de Pierre-Olivier Nadeau, paru le 4 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Des Saskatchewanais vivant avec un handicap invisible affirment qu'ils se sentent jugés lorsqu'ils utilisent les places de stationnement réservées aux personnes handicapées. Jenna Sittler, une femme qui souffre de douleurs chroniques, de fatigue et de dysphonie depuis 2013, a vite compris que ses handicaps lui ajouteraient un autre fardeau à porter au quotidien, le regard insistant des gens. Sans aucun trait physique distinctif, Jenna Sittler a pourtant le droit d'utiliser les places de stationnement réservées aux personnes handicapées. Toutefois, elle sait que certaines personnes qui ne comprennent pas la réalité des handicaps invisibles critiquent parfois sur les réseaux sociaux celles qui occupent ces places sans signe apparent de handicap. Jenna explique qu'elle évite désormais des plateformes comme Facebook ou Reddit après avoir lu des commentaires désobligeants visant des personnes qui abusent prétendument de ces stationnements. Je ferais une crise d'angoisse si j'étais visée, confie-t-elle, ajoutant que, selon elle, beaucoup pensent qu'elle est trop jeune ou qu'elle ne paraît pas handicapée pour avoir besoin de ces places. C'est comme s'ils avaient besoin d'une preuve visuelle. Ils veulent le voir de leurs propres yeux. Une citation de Jenna Sittler, une femme souffrant de douleurs chroniques. Ce poids social la pousse parfois à se garer plus loin, au risque de s'essouffler. Elle affirme cependant qu'elle utilise ses places les jours où elle boite vraiment beaucoup ou lorsqu'elle peine à rester debout. Un jugement qui arrive vite. Bart Arder, lui aussi, comprend pourquoi les gens peuvent le regarder puisqu'il ne présente aucun signe visible de handicap. Il raconte d'ailleurs qu'il s'est fait interpeller à de nombreuses reprises pour avoir utilisé une place de stationnement réservée aux personnes handicapées. Cependant, il a subi une lésion de la moelle épinière en 1998. Aujourd'hui, il a perdu l'usage complet de son épaule droite et de ses deux mains. Si je dis à quelqu'un que mes mains ne fonctionnent pas, cela ne veut rien dire pour eux, parce que je peux toujours marcher, indique Bart Harder. Il s'est d'ailleurs senti gêné quand il a fait la demande d'une vignette de stationnement pour personnes handicapées, car il ne se considère pas comme un handicapé. Jusqu'au moment où tu vas à un Walmart ou un Costco, ou lorsque tu trébuches en allant à ta voiture parce que tes jambes fléchissent sous ton poids. Une citation de Bart Harder. Monsieur Harder croit que les gens doivent arrêter de juger aussi rapidement. Les abus de vignettes sont rares. Au Canada, plus de 8 millions de personnes vivent avec un handicap, selon les chiffres de 2022 de Statistique Canada. Carrie McCumber, directrice des services de réadaptation pour Saskabilities, affirme qu'il n'y a pas de handicap spécifique qui donne automatiquement accès à ces places de stationnement. Elle explique que l'un des principaux critères pour obtenir cette vignette est que la personne soit incapable de marcher plus de 50 mètres sans assistance. Ils ne peuvent pas marcher sur cette distance sans grande difficulté, ou cela représente un danger pour leur santé et leur sécurité, ajoute-t-elle, précisant que c'est un professionnel de la santé qui doit remplir un formulaire au nom du demandeur. Elle souligne également que le demandeur n'a pas nécessairement besoin de conduire le véhicule pour avoir accès à la vignette, évoquant notamment les enfants atteints d'un handicap. Bien qu'une vignette puisse être utilisée par une personne à qui elle n'appartient pas, elle estime que ce scénario reste très rare. Probablement 9 fois sur 10, la majorité du temps, il n'y a pas d'enjeu avec la vignette, dit Carrie McCumber. C'était « Des regards accusateurs, le fardeau du handicap invisible », un texte de Pierre-Olivier Nadeau, paru le 4 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Vivre avec peu et avancer dans la vie sans excuses. Un texte de Tristan Côté, paru le 21 août 2025 dans Granby Express. Redonner à la communauté, c'est ce que Thérèse Desloges a fait toute sa vie. Membre de syndicat pendant plus d'une trentaine d'années, animatrice au Club Lions de Granby et fidèle employée pendant 22 ans au CHSLD Villa Bonheur, elle pense à elle-même en pensant aux autres. Une mentalité peu commune de nos jours. Rencontre avec une dame très bavarde et pleine d'anecdotes. Cette volonté, elle l'a en fait depuis l'âge de 5 ans. Seule fille au sein d'une famille de 10 enfants, elle a dû s'imposer et faire sa place dans une époque où les hommes dominaient encore. La femme de 72 ans s'est fait enseigner ce qu'elle considère comme la meilleure chose apprise, l'autonomie. Citation : Nous n'étions pas riches dans ma famille. J'ai toujours vu des choses qui se passaient dans les gens et que j'essayais de régler. Ellipse : Je me suis donc fait apprendre l'autonomie assez tôt. À l'âge de 12 ans, je commençais déjà à travailler et je gagnais ma vie. C'est moi qui ai trouvé mon emploi à ce moment-là. C'était mon but, c'était volontaire et personne ne m'a poussé. Fin de citation, a affirmé celle qui est mère de 4 enfants. Trouver un boulot aussitôt dans sa jeunesse a cependant été tout un défi. Citation, je travaillais comme vendeuse pour l'usine Stanley à Roxton Pond. Ellipse, j'allais de maison en maison. J'étais gênée. « Tellement gênée, s'exclame-t-elle. » Ellipse. « Bon, il y a 2 sortes de personnes gênées, celles qui foncent ou celles qui se font écraser. J'ai choisi la première option. En plus, je suis bélier, signe astrologique, et les individus qui le sont, eh bien, sont réputés pour être des fonceurs. » Fin de citation. Rigueur. Son autonomie allait plus loin encore. Sa mère, qui voulait que ses enfants soient bien éduqués et se dirigent vers le cégep, ne se chargeait que de très peu de dépenses dans une famille modeste. plutôt que de rechigner, Thérèse Desloges l'a vue comme une opportunité à prendre conscience de la valeur de l'argent. Citation : J'achetais mes propres vêtements à 100%. La seule dépense que ma mère faisait pour moi, c'était tout ce qui concerne la fourniture scolaire. Ellipse. Finalement, nous avons tous réussi à aller au cégep, a souligné celle qui est citoyenne de Granby. J'ai obtenu un diplôme d'études collégiales en éducation spécialisée, puis j'ai des frères qui ont notamment été des directeurs d'école et des professeurs. J'en ai même un qui a été agent de libération conditionnelle. En bref, il y en a d'autres aussi et c'est relativement dans tous les domaines. Fin de citation. Certains pourraient bien se vanter sur tous les toits de s'être sortis d'une réalité à revenus plus modestes et vite oublier le passé. Mais ce n'est pas le cas pour Madame Desloges. Elle préfère garder les deux pieds sur terre. Citation. Oui, j'ai une maison, une petite maison. Oui, je donne beaucoup, mais je reçois beaucoup aussi. C'est bien, mais jusqu'à un certain point. Ellipse. Je suis rendue avec une collection de 500 cloches. Ellipse. Et près d'une quarantaine de maillots de bain, a-t-elle fait savoir. La plupart proviennent de dons réciproques que je reçois parfois. Ça prend trop de place ici et je n'ai clairement pas besoin de tout ça. Ellipse. J'ai toujours donné et je ne fais pas la grosse tête. Ma priorité est de donner. Fin de citation. Défaire les préjugés et stéréotypes. L'animatrice au Club Lions de Granby se considère bel et bien à la retraite, malgré tout le temps qu'elle passe à faire du bénévolat. Elle croit toutefois qu'il ne faut pas catégoriser les personnes à la retraite, les mettre dans des boîtes et penser qu'ils sont confinés à leur domicile. Citation. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont plus beaucoup de parenté ni de cercle d'amis. Si tu ne te fais pas un cercle d'amis en arrivant dans la vieillesse, ça peut être bien plate. Donc, ça peut être hors du contrôle de la personne dans certains cas. Fin de citation. Finalement, qu'est-ce qu'elle pense de la jeunesse d'aujourd'hui? Elle a un avis assez tranché à ce sujet. Citation. Oui, ça se peut que tu ne sois pas riche chez vous, mais contribue toi aussi. Vas-y travailler. Il y en a plein d'emplois pour les jeunes. Moi, je n'ai pas eu peur de foncer. Ils doivent cesser d'être des enfants rois. Fin de citation, conclut l'ancien employé au CHSLD Villa-Bonheur. C'était « Vivre avec peu et avancer dans la vie sans excuses », un texte de Tristan Côté, paru le 21 août 2025 dans Granby Express.